Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut pour un nouveau point de mire qui nous donne le plaisir d'aller à la découverte d'un événement assez exceptionnel. Il s'agit du bicentenaire du Corps des Mines, 200 ans d'histoire et d'action au service de l'État. 2010 permettra de commémorer deux dates indissociables pour le Corps des Mines. La loi du 21 avril 1810 qui pose les fondements de l'action publique pour l'exploitation minière et le décret du 18 novembre de la même année qui crée sous la signature même de l'empereur le Corps impérial des ingénieurs des mines et le Conseil général des mines, le CGM. Ce corps prestigieux s'est adapté aux évolutions de son environnement et continue de marquer de son empreinte l'histoire de la nation, ne serait-ce qu'à travers les éminentes responsabilités exercées par ses membres. Le Conseil général des mines a fusionné récemment avec celui des technologies de l'information pour former le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies, le CGIET, et en intégrant le corps des ingénieurs des mines avec celui des télécommunications, engendrant ainsi le nouveau, entre guillemets, corps des mines. Le CGIET a souhaité célébrer le bicentenaire du CGM, dont il est issu, en ravivant ainsi la mémoire et son histoire, en éclairant les perspectives d'avenir liées à son champ de compétences. Ainsi, 5 conférences et colloques se tiendront jusqu'au 18 novembre 2010, date à laquelle interviendra le colloque de clôture sous le haut patronage du président Nicolas Sarkozy. Je reçois donc pour commenter ce grand événement et les manifestations qui le précéderont ou qui le suivront, deux éminentes personnalités qui pilotent l'opération. Alors d'une part, Pierre Couvenne, ingénieur général des mines, rédacteur en chef des Annales des mines, et Jean-Jacques Dumont, vice-président délégué du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Alors quels sont les points que cette commémoration vise particulièrement à mettre en lumière? Que retenir d'essentiel de l'histoire du Corps des ingénieurs des mines? Et quelles sont ses perspectives d'avenir? Des éléments de réponse, messieurs, c'est vous qui allez les apporter. Messieurs, bonjour. Très heureux de vous recevoir sur notre antenne. Alors, peut-être que cette présentation a été un petit peu courte, en tout cas en ce qui vous concerne. On peut peut-être revenir sur vos fonctions. Je commence par donc M. Couvenne, qui est donc aussi le rédacteur de la revue spécifique du Corps des ingénieurs des mines. Et je vous laisse le soin peut-être de dire quelques mots sur vos fonctions.
Oui, bien écoutez, merci beaucoup. Je suis effectivement rédacteur en chef des Annales des mines, qui est probablement la plus vieille revue française consacrée aux sciences et techniques et à l'économie. Elle a en effet été créée en 1794 sous le comité de salut public et elle a été publiée sans interruption depuis cette date.
Très bien. Alors voilà donc pour la présentation de M. Couvenne. Et vous, Monsieur le vice-président Jean-Jacques Dumont, vous êtes vice-président parce que le président, c'est directement le ministre de l'économie.
Oui, bonjour tout d'abord.
Bonjour.
Et merci de nous donner l'occasion à Pierre Couvenne et moi de nous exprimer devant vous et devant tous vos auditeurs. Alors, en fait, je ne suis pas vice-président, je suis vice-président délégué.
Délégué.
Alors, le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies est un organisme qui est chargé d'un certain nombre de missions, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, et qui est présidé statutairement par le ministre chargé de l'économie. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, Madame Lagarde préside ce Conseil général. Bien entendu, le ministre ne peut pas assurer la direction opérationnelle du service et donc, également statutairement, il est prévu un vice-président. Et puis, comme nous sommes, vous l'avez dit, dans une phase encore de démarrage, puisque la fusion dont vous avez parlé du Conseil général des mines et du Conseil général des technologies de l'information remonte à seulement moins de 2 ans, hein, c'était le 1er février 2009, eh bien, pour une phase transitoire, il a été décidé qu'il y aurait un vice-président qui est Pascal Faure, qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui et que je représente, et puis un vice-président délégué, votre serviteur.
Très bien. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le corps, si je puis dire, du bicentenaire. Donc, vous avez tenu à en faire une manifestation particulièrement importante qui a déjà commencé et qui se déroule sur plusieurs mois. Alors, peut-être pour recadrer l'ensemble de ces manifestations, quelques éléments. Donc, d'abord, peut-être, ça me paraît plus logique de commencer par l'histoire du corps impérial des ingénieurs des mines.
Oui, même le corps, en fait, a été organisé. Le corps impérial a été organisé par cette loi de 1810, mais en fait, ses origines sont beaucoup plus anciennes. D'abord, déjà, l'école des mines avait été créé sous l'Ancien Régime et il y avait des ingénieurs qui s'occupaient de mines. Alors, est-ce qu'ils avaient le titre d'ingénieur des mines ? En vérité, je ne sais pas très bien. Mais il y avait déjà une organisation qui existait. Et ensuite, j'ai cité tout à l'heure le Journal des mines. Et mon illustre prédécesseur Charles Cockbert avait précisé dans le premier numéro des Annales des mines, publié donc en 1794, ce que devaient être les tâches en fait, de ce qu'on peut appeler déjà le corps des mines. Il s'agissait donc d'un corps de spécialistes qui était là pour rassembler des connaissances sur l'art d'exploiter les mines, considérant donc qu'il y avait des richesses en France que, dont on ne tirait pas parti. Et c'était quelque chose d'extrêmement important dans la situation critique que connaissait notre pays à l'époque. Et donc, le comité de salut public avait décidé de créer, d'organiser un corps d'ingénieurs spécialisés dans ces matières, qui avait pour tâche donc d'établir une carte minéralogique de la France, qui avait pour tâche de passer une grande partie de leur temps sur le terrain, et puis de diffuser les connaissances grâce justement au Journal des mines, qui est devenu peu après les Annales des mines. Donc, vous voyez qu'il y avait déjà des choses qui existaient. Bon, on pourrait même remonter au grand maître des mines qui avait été créé par Charles V il y a très longtemps.
Une histoire riche.
Une histoire riche et ancienne. Mais il faut bien dire que tout cela avait été... Enfin, on avait mis en place des structures, mais l'organisation moderne du corps des mines a été créée par donc cette loi de 1810 qui a mis en place une structure finalement assez analogue à celle qui existait aujourd'hui avec un corps d'ingénieurs et puis un Conseil général, voilà.
Qui regroupe. Alors, je me tourne vers Jean-Jacques Dumont, ce le vice-président. Les mines, je vais faire l'avocat de nos auditeurs, il y en a de moins en moins, mais des ingénieurs du corps des mines, il y en a toujours. Combien aujourd'hui ?
Alors, des mines, il y en a de moins en moins en France.
En France.
En France, parce qu'il ne vous a pas échappé que dans le vaste monde, il y en a toujours beaucoup.
Oui. Et l'actualité l'a montré, oui.
Heureusement. Heureusement, parce que c'est des mines de formes diverses que sortent toutes les matières premières, minérales et une bonne partie des matières premières énergétiques que nous utilisons. Donc, heureusement, il y a des mines. Alors, il est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup en France, c'est exact. Les gisements sont désormais à peu près épuisés. Je dis à peu près,
oui, car tout à fait,
la, la notion d'épuisement d'un gisement est une notion relative qui renvoie aux conditions économiques d'exploitation.
Bien sûr. À quel prix, quoi ?
Voilà. À quel prix ? Bon. Donc, effectivement, pourquoi des ingénieurs des mines ? Mais je dirais que ingénieur des mines, c'est en fait devenu un label. C'est un label. Bon, ben, de la même façon qu'il y a toujours une école centrale. Bon. École centrale des arts et manufactures, on peut se demander si ça n'est pas... Bon, ouais. Nous avons beaucoup d'écoles qui ont des noms datés, mais qui sont devenues des marques. Et vous savez combien il est important de préserver les marques quand elles ont une bonne image.
En plus, c'est la grande valeur de ce corps, c'est sa marque et ses hommes, bien sûr. Et aujourd'hui, on a une idée de combien y a-t-il d'ingénieurs en fonction. Enfin, je ne parle pas depuis l'origine, bien sûr, parce que ça, certainement, on arriverait des chiffres. Enfin, peut-être d'ailleurs, vous les avez. Mais en fonction, enfin, de l'ordre
oui,
d'idée.
Non, mais nous n'allons pas accumuler, effectivement, et compter pêle-mêle des
générations.
Des grands anciens aujourd'hui disparus et des gens bien vivants. À quelques dizaines près, il y a aujourd'hui de l'ordre de 1500 ingénieurs des mines en fonction, soit dans l'administration de l'État, soit dans des établissements publics, soit dans des entreprises, pour la plupart privées, puisqu'aujourd'hui, le nombre, l'ampleur du secteur des entreprises publiques s'est considérablement réduit par rapport à ce qu'il était il y a 20-30 ans.
Alors la grande innovation, c'est que votre corps a fusionné en 2009, si mes souvenirs sont bons.
L'an dernier,
donc c'est tout récent. J'imagine que ça représentait une évolution significative. En clair, ça consistait donc à rapprocher ces deux corps et pour en faire un seul, quoi, en résumé.
Mais tout à fait, vous l'avez fort bien dit. Vous savez que la fonction publique d'État est organisée en catégories que l'on appelle des corps. Des corps qui sont en gros des ensembles de fonctionnaires exerçant une même famille de métiers. Donc, si on regarde ce qu'on appelle les corps techniques supérieurs de l'État, il y avait historiquement le corps des mines, le corps des instruments de mesure, le corps des télécommunications, le corps des ponts et chaussées, le corps des ingénieurs du greffe, il y a le corps des ingénieurs de l'armement, il y en a encore quelques autres, mais je m'arrête là pour ne pas lasser les auditeurs. Et il y a un mouvement général de réduction du nombre de corps de la fonction publique pour des questions, disons, d'efficacité de la gestion, pour diminuer la fragmentation et puis pour s'adapter à des évolutions du monde qui nous entoure.
D'accord. Donc cette évolution, elle est dans ce sens-là. Alors voilà, je crois, redresser, représenter un petit peu l'environnement récent, actuel. Mais
si vous permettez, j'ajouterai encore une chose.
Allez-y.
Vous m'avez interpellé au départ en me disant, mais enfin, il n'y a plus de mines en France, ou presque plus, et il y a encore des mines, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc je vous ai parlé de la marque, mais vous voyez bien que le fait que nous ayons fusionné le corps des mines ancienne manière et le corps des télécommunications a comme conséquence que le corps des mines d'aujourd'hui couvre un champ d'activité économique qui est considérablement diversifié et qui va effectivement, depuis les approvisionnements en matières premières, en énergie à une extrémité, jusqu'au secteur des technologies de l'information et des communications à l'autre bout. Et vous voyez donc que derrière cette étiquette, ce label corps des mines, non pas se cache, mais on trouve des activités dont certaines sont tout à fait à la pointe des technologies d'aujourd'hui.
Absolument, qui correspondent à l'actualité d'aujourd'hui. Alors, je me tourne vers M. Couven à nouveau pour maintenant en fait, aborder le sujet directement, à savoir cette commémoration de cette grande histoire donc, du corps impérial des ingénieurs des mines. Cette commémoration a déjà commencé par un certain nombre de colloques qui se sont tenus. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être commencer à nous décrire l'ensemble de ces manifestations ?
Très volontiers. Et ça va me permettre de détailler un peu ce que vient d'annoncer Jean-Jacques Dumont sur les différentes activités des ingénieurs des mines aujourd'hui, que vous allez voir traduites en fait par les colloques nous avons organisés. À cet égard, vous m'aviez demandé tout à l'heure ce qu'étaient les annales des mines. Oui. Et je vous avais présenté ça de manière assez succincte. En fait, les annales des mines comprennent trois séries trimestrielles qui décrivent bien les différents domaines d'activité, tous les différents champs d'activité couverts par les ingénieurs des mines. Vous avez une première série qui s'appelle « Réalité industrielle », donc qui touche à l'économie générale, ce qui ne surprendra, je crois, personne. Une deuxième série s'appelle « Responsabilité et environnement » et concerne donc à peu près tout le champ que couvre le ministère, le BEDEM aujourd'hui, en partant des questions d'environnement stricto sensu, mais aussi l'énergie et les matières premières. Et enfin, il y a une troisième série nommée « Gérer et comprendre » qui est référencée par le CNRS, à la fois dans la catégorie « Management », mais aussi dans la catégorie « Sociologie ». Donc vous voyez que le champ, si vous voulez, d'intervention est extrêmement large. Alors j'en viens maintenant.
Alors simplement, donc, pour peut-être préciser, les annales, elles sont adressées à qui ? Aux ingénieurs eux-mêmes ?
Les annales des mines est une revue que chacun peut acheter, chacun peut s'abonner. C'est une revue qui n'est pas du tout réservée aux ingénieurs des mines, qui n'est pas du tout, d'ailleurs, la très grande majorité des auteurs ne sont pas des ingénieurs des mines. C'est simplement une revue qui est publiée sous l'égide du ministère de l'économie et dont la rédaction est rattachée au Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
D'accord. Et on les trouve dans les boutiques spécialisées ou il faut uniquement par abonnement ? C'est la grande question. Enfin, en tout cas, elle est accessible à l'ensemble du public.
Ouais. Si vous permettez, je conjure les auditeurs qui seraient intéressés par cette revue, qui, je le souligne, est vraiment excellente.
Oui, extrêmement complète. Très.
Je les incite vivement à s'abonner.
Et en faisant comment ? Alors, pour s'abonner, en allant sur votre site.
Voilà, bien écoutez, je vous propose peut-être de mettre sur votre lettre mon adresse.
D'accord, ça sera parfait.
Et puis ensuite, donc, toute personne intéressée peut...
Donc, directement auprès de vous. Ça, c'est une excellente information. Alors, poursuivons sur
Les colloques. Et donc, cette petite présentation, je crois, permettra de mieux cerner, si vous voulez, l'origine des sujets traités. Alors, je vais commencer par un premier colloque qui n'a pas été organisé stricto sensu dans le cadre de ce bicentenaire. En fait, c'est un séminaire de l'Association amicale des ingénieurs des mines qui a un groupe de travail qui travaille depuis des années, si vous voulez, sur l'action de la puissance publique en matière de risque. Et elle a organisé donc cette année, comme elle le fait environ tous les deux ans, un colloque d'une journée sur le thème « Maîtrise des risques et vie en société ». Donc, vous voyez, je crois que le titre décrit bien le sujet. Et bien que ce soit d'ailleurs un séminaire organisé sous l'égide de l'Amicale des ingénieurs des mines, les participants ne sont pas tous des ingénieurs des mines. Et d'ailleurs, le groupe de travail qui se réunit rassemble des personnes d'origine assez diverse, originaires d'autres administrations, originaires d'entreprises, etc. Et les actes de ce colloque ont été publiés dans le numéro des Annales des Mines de la série Responsabilité et Environnement de ce mois d'octobre. Donc les auditeurs qui seraient particulièrement intéressés par ce sujet, donc je répète, maîtrise des risques et vie en société, peuvent se procurer ce numéro. Cela est expliqué, enfin le contenu du colloque est expliqué en détail.
Alors vous avez donc des colloques aussi prospectifs qui se sont tenus, au moins deux déjà se sont tenus.
Alors nous avons tenu deux colloques prospectifs, comme l'indiquait tout à l'heure Jean-Jacques Dumont, ou vous-même d'ailleurs dans votre introduction. Oui. Le but de toutes ces manifestations, c'est à la fois de se pencher sur son passé pour essayer d'en tirer des leçons, mais aussi de se projeter dans l'avenir. Et comme notre Conseil général est de création récente, il a été créé l'an dernier, ces manifestations sont une excellente occasion pour réfléchir ensemble. Quand je dis ensemble, c'est les ingénieurs des mines, j'allais dire canal historique, et d'autre part, les ingénieurs des mines originaires du corps des télécommunications, de nous mettre ensemble pour réfléchir à nos domaines de compétences et encore une fois tracer des priorités, tracer des axes d'action pour l'avenir au service de l'État.
Alors quels sont, Jean-Jacques Dumont, les grands défis qui sont devant l'avenir de votre corps nouveau ?
Notre corps nouveau, je dirais, reprend les patrimoines des deux corps qu'il a fusionnés. Il ne s'agit pas du tout d'une fusion où une partie l'aurait emporté sur l'autre. Ouais. C'est vraiment une fusion-union pour continuer à faire ensemble, donc en étant plus fort, plus compétent, ce que les deux corps faisaient précédemment. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pour être très, très synthétique, accompagner et susciter le développement économique et tout singulièrement le développement industriel en créant la dynamique de ce développement ou en contribuant à la créer, bien entendu, et également en maîtrisant les inconvénients qui peuvent résulter de ce développement. Alors ça veut dire être présent sur des domaines tels que l'approvisionnement en matières premières et en énergie, sur la mise en œuvre de cette énergie, son transport, sa mise à disposition, sur son utilisation par des entreprises. Ça veut dire être présent sur le front du développement technologique, tout particulièrement dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Et ça veut dire aussi, d'une façon plus générale, réfléchir aux problèmes que posent les évolutions technologiques, les risques inhérents à ces évolutions technologiques, et donc essayer d'imaginer les conditions à la fois de maîtrise de ces risques et de communication pour que ces technologies puissent se développer et être acceptées.
Donc une grande rencontre au carrefour de l'histoire et de l'avenir de votre corps. Alors, des colloques prospectifs, maintenant on en vient, j'imagine, aux événements qui sont devant nous.
Alors peut-être puis-je vous dire quelques précisions quand même sur ces colloques prospectifs pour être un petit peu plus concret.
Oui, peut-être pour les compléter un peu.
Donc le premier colloque prospectif était consacré au thème « Quelle économie numérique ?» Quelle société numérique en 2030 ?
Oui, d'accord.
Donc, vous trouvez là un thème d'élection, évidemment, pour l'ex-corps des télécommunications, bien
absolument
entendu.
Oui, hein. Oui.
Ce colloque a été conclu par Nathalie Kosciusko-Morizet, qui nous a fait l'honneur de participer à notre colloque. Et vous avez eu des participants extrêmement divers qui partaient de spécialistes bien connus des technologies de l'information. Je ne citerai pas trop de noms, mais élargi également à des personnalités d'origine diverse, notamment un médecin, par exemple, le docteur Dan Velea, qui est un spécialiste des cyberaddictions. Il y avait également un économiste comme Eli Cohen, un spécialiste de la gestion des petites entreprises comme Michel Berry. Et donc, tout ce groupe de personnes a eu un débat très riche.
Des regards croisés, en fait, sur cette actualité.
Exactement, parce que quand il s'agit d'envisager un avenir aussi lointain que 2030, parce que pour les technologies de l'information, c'est un avenir très lointain, il est nécessaire d'avoir une équipe vraiment polydisciplinaire, parce que les difficultés ne viennent pas uniquement de la technique, si vous voulez.
Oui, tout à fait.
Et donc, pour les personnes qui sont intéressées, ce colloque peut être consulté en totalité.
Très important.
Il a été enregistré en vidéo. Il se trouve sur le site du Bicentenaire, dont vous aurez certainement l'amabilité de mettre l'adresse sur votre bulletin.
Absolument.
Et donc, vous pourrez consulter à la fois l'intégralité du colloque, qui est découpé en un certain nombre de chapitres, et d'autre part, les interviews d'un certain nombre de participants.
Très bien. Alors, deuxième colloque prospectif.
Alors, deuxième colloque prospectif, disons qu'il provient plus ou moins du domaine d'intervention classique des ingénieurs des mines. Quels équilibres énergétiques en 2050 ? Qui donc est un horizon un peu plus lointain, mais dans le domaine énergétique, si vous voulez, les constantes de temps sont plus longues. J'avais oublié de préciser que le colloque précédent a été présidé par Alain Bravo, qui est le directeur général de Supélec. Celui-ci a été présidé par Claude Mandil, qui est l'ancien directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, avec également un panel de spécialistes tout à fait remarquables. Ils m'excuseront de ne pas les citer tous. Et là également, vous pourrez consulter sur notre site l'intégralité de ces débats.
Vous pouvez le citer, le site.
C'est bicentenaire-mine.org.
Très bien.
Mine au pluriel.
D'accord. Au pluriel. Si vous cherchez d'ailleurs sur un navigateur bien connu, Bicentenaire Mine, vous trouverez sans problème ce site.
Parfait. Mais enfin, on le rappellera de toute façon dans notre lettre.
Donc, je crois que je ne voulais pas entrer dans les détails sur les équilibres énergétiques. Encore une fois, je préfère renvoyer sur notre site.
Donc, des réflexions de très haut niveau par des personnalités éminentes. Alors, on en vient à ce point d'orgue, qui est donc le prochain rendez-vous pour le colloque de clôture. Il y en a avant un autre épisode donc, que j'ai peut-être raté. C'est quoi l'autre
Ce sont les colloques historiques.
Alors, c'est les colloques historiques.
Je vous comprends parce qu'on a un peu inversé l'ordre peut-être classique. On a commencé par la prospective avant de parler de l'historique.
Alors, un mot sur les colloques historiques. Oui.
Donc, nous avons un premier colloque qui s'est tenu il y a une quinzaine de jours, les 7 et 8 octobre, consacré à l'histoire du corps des mines.
D'accord.
Et donc, ce colloque était animé par des historiens éminents. Donc, dans la direction scientifique, on trouvait des personnalités aussi remarquables qu'Anne-Françoise Garçon, Michel Lesture, Bruno Bellost, et je dois en oublier certains. Donc, vraiment, un colloque par des historiens qui s'intéressaient au corps des mines, avec ce que l'on appelle des discutants. Enfin, il y avait 4 demi-journées, chacune rassemblant 4 ou 5 historiens qui ont fait des exposés. Et ensuite, il y a eu un ingénieur des mines dit discutant qui a réagi aux propositions qu'ont faites les historiens.
Il y a eu des messages que vous pouvez répercuter, enfin en synthèse, ou vous renvoyez au site ?
Eh bien, écoutez, là, je peux moins renvoyer au site, mais là, dans le cas particulier, les actes de ce colloque seront publiés sous forme d'un ouvrage qui sera publié par le département d'histoire du ministère de l'économie, qui sera, je crois, un très bel ouvrage, un ouvrage passionnant. Écoutez, ce qui a frappé quand même un certain nombre de participants, c'est le fait que dès le début, en fait, les ingénieurs des mines, pour reprendre votre remarque, s'occupaient d'autre chose que de mines. Dès le début du 19e siècle, ils étaient extrêmement actifs dans le domaine, par exemple, de la métallurgie. Ils ont été extrêmement actifs dans le domaine des chemins de fer parce que les mines étaient le premier domaine où on a utilisé des machines à vapeur. Donc, ils jouaient un rôle éminent dans ce domaine. Ils ont joué un rôle éminent en matière de chimie. Enfin, donc, cette diversité était très frappante. Et à côté, si vous voulez, de cette ouverture dans le domaine technique, dès le départ également, le corps des mines a joué un rôle majeur en matière d'économie sociale. Et il est largement à l'origine, si vous voulez, des premières réglementations, à la fois sur la réglementation des accidents du travail, parce que les mines est évidemment un domaine particulièrement dangereux, où on a jugé utile de mettre en place une réglementation plutôt qu'ailleurs. Alors évidemment, la première réglementation, c'est une réglementation à caractère général, mais qui était très largement inspirée de l'expérience des mines. Et de la même manière, c'est en matière de retraite, c'est les mines qui ont joué un rôle tout à fait leader. Et donc, vous avez des personnalités comme Le Play, qui est considéré comme un fondateur de la sociologie, si vous voulez, qui est un ingénieur des mines. Et puis, l'autre point qui est apparu aussi, c'est l'intérêt mené dès le début par les ingénieurs des mines pour l'économie. Alors, je profite à cette occasion de parler d'une perte récente, qui est celle de Maurice Allais.
Une grande perte, effectivement.
Une grande perte, la semaine dernière.
Il est décédé samedi
dernier, qui était le seul Français qui ait jamais obtenu le prix Nobel d'économie et qui est un homme qui a eu une influence considérable en France comme à l'étranger. Comme vous le savez, Samuelson a dit un jour, si Allais avait été publié en anglais, nous aurions gagné une dizaine d'années en matière d'économie.
Mais il n'écrivait pas en anglais.
Et je voudrais citer une anecdote qui s'est passée lors de ce colloque historique de la semaine dernière. Donc, Maurice Allais était toujours vivant. Et un président de séance était un économiste écossais, M. Martin Schick, qui a conclu donc sa séance en disant qu'il avait été très honoré de présider cette séance passionnante, mais il avait été d'autant plus que c'était une manifestation historique pour le Corps des Mines, et il savait que Maurice Allais était un membre du Corps des Mines et qu'il avait une admiration particulière pour cet économiste qu'il considérait comme l'un des plus grands, et il nous a recommandé de faire dès que possible un colloque en son honneur.
Ah, écoutez, et donc, c'est un rendez-vous qui est pris, alors nous serons là.
Mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il a fait cette proposition la veille du décès de Maurice Allais.
Ouais, hélas, on salue sa mémoire et les économistes que nous sommes aussi ont été extrêmement affectés. Alors, merci donc pour... Vous aviez terminé...
Alors, c'était le premier colloque historique. Nous allons bien entendu en faire un dédié au corps des télécommunications et qui va se tenir demain et après-demain. Ce sera donc les 21 et 22 octobre.
D'accord. Et donc, pareil, ils pourront trouver sur votre site.
Eh bien, un certain nombre, en tout cas, parce que pour diverses raisons liées aux salles que nous utilisons, ces colloques ne sont pas filmés intégralement. D'accord. En revanche, ils trouveront au moins l'archive sonore correspondante. D'accord. Et ce colloque, comme le précédent, donnera lieu à édition d'un livre.
Très bien. On en vient au moment, au point d'orgue. Je me tourne vers Jean-Jacques Dumont. Donc, ce grand colloque qui est annoncé pour le 18 novembre 2010, jour anniversaire du décret de 1810, présidé par le ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, qui est aussi, d'une façon institutionnelle, le président du CGET. Donc, ce point d'orgue, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, monsieur le président ?
Je vais vous dire quel est le but visé, et éventuellement Pierre Couvagne complétera, mais c'est effectivement, comme vous l'avez dit, le point d'orgue de cette série de manifestations qui aura émaillé une partie de l'année du bicentenaire, et donc jour anniversaire du décret fondateur, présence de la ministre, président statutaire de notre Conseil général. Donc l'objet, c'est déjà de faire la synthèse des événements qui se seront déroulés. Donc, il y aura très classiquement des tables rondes de synthèse, des colloques prospectifs, des colloques historiques. Et puis, il y aura une séance de conclusion et de façon, en fait, à tracer les grandes lignes qui s'ouvrent pour le corps à l'aube de ce... On peut encore parler de l'aube de ce millénaire. On n'est pas très loin.
La première décennie, on dit, c'est la décennie zéro. Donc
voilà. Donc, on est encore, en tout cas, au tout début de ce millénaire et de ce siècle même, pour être plus modeste, parce que 1000 ans, c'est beaucoup. Mais ces lignes directrices, elles seront, et les colloques historiques l'ont déjà montré, et les colloques prospectifs aussi, elles seront enracinées dans un capital d'expérience accumulé pendant les deux siècles d'existence du corps, et accumulé également par l'évolution économique et sociale de notre pays.
Bien, eh bien écoutez, messieurs, il me reste à vous remercier pour avoir aussi bien détaillé et mis nos auditeurs en appétit pour cet événement de très haute tenue, le bicentenaire du Corps des Mines, dont le colloque final se tiendra donc le 18 novembre 2010 à Bercy, en présence du ministre lui-même. Avant de conclure, peut-être un dernier mot chacun. Si vous aviez un message à adresser à ces jeunes gens qui, peut-être demain, viendront enrichir votre corps pour renforcer leur appétit, vous leur diriez quoi aujourd'hui ?
Écoutez, je crois que le seul message que je leur donnerai, c'est celui que mon illustre prédécesseur Charles Cockbert donnait dans son premier numéro du Journal des Mines, c'est qu'il faut un corps d'ingénieurs au service de l'État pour développer les sciences et les techniques au profit du bien public.
Venez servir donc l'État.
Venez servir l'État. Il faut des ingénieurs, il faut des scientifiques au service de l'État. Moi, je vous rappellerai le mot qui avait été dit à Lavoisier, vous savez, on voulait l'amener à l'échafaud. Donc, il y avait toutes sortes de savants. On disait, mais attendez, vous n'allez pas le guillotiner, c'est un grand savant. Et le bourreau a dit, la République n'a pas besoin de savants. En fait, notre message, c'est plutôt l'inverse. C'est que la République a besoin de savants. Et pour les jeunes, c'est un métier passionnant d'agir au service de l'État en tant qu'ingénieur pour, encore une fois, aujourd'hui plus que jamais, plus aujourd'hui peut-être qu'au XVIIIe siècle encore, utiliser les sciences, les techniques au service du bien public, encore une fois.
Voilà, c'était donc le message de Pierre Couvagne. Monsieur le Président Jean-Jacques Dumont, merci. Merci à vous deux. Un dernier message peut-être, Monsieur le Président, c'est on a fait à peu près le tour, me semble-t-il.
Je ne veux rien rajouter à ce qu'a dit Pierre Couvaigne, qui me paraît tout à fait bien refléter nos aspirations pour que des jeunes nous rejoignent pour contribuer à ce que le pays puisse répondre aux défis de la mondialisation qui sont devant nous. Et donc, permettez-moi de vous remercier de nous avoir donné l'occasion de faire connaître mieux à sans doute une majorité de nos auditeurs ce qu'est le Corps des Mines. Et j'espère que certains d'entre eux pourront venir directement nous entendre et entendre les intervenants le 18 novembre. C'est le souhait que je formule.
Le colloque de clôture donc pour le jour anniversaire du décret de 1810 qui a donc instauré le corps impérial des ingénieurs des mines. Messieurs, encore une fois, merci et bravo pour cette initiative et ce bicentenaire de très haute tenue. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.